Studio Tamani, voici les informations en français.
Multiplication des grèves dans le secteur de l'éducation. Des parents d'élèves et des élèves s'inquiètent de ces arrêts de travail à répétition. Ils espèrent un dénouement rapide. Signature d'accord de financement entre le Mali et la Banque mondiale. Plus de 180 milliards de francs CFA pour renforcer l'accès aux services d'assainissement, d'eau et la production agricole. L'esclavage par ascendance, une violation des droits humains. Pourquoi cette pratique séculaire continue d'exister au Mali malgré son interdiction par la loi? Dossier à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition présentée par Hamsetou Touré. Je viens de l'annoncer à l'instant dans le sommaire. 4 grèves sont en cours à travers le pays au niveau du secteur de l'éducation. 2 autres sont prévues à partir de ce mercredi et la semaine prochaine. Ces arrêts de travail sont lancés par différents syndicats qui regroupent des enseignants, étudiants et promoteurs d'écoles privées. Ces syndicalistes exigent notamment le paiement des bourses sur subvention et l'application de textes. Moussa Malé Sissoko nous en dit plus.
Les 4 grèves ont toutes démarré hier dans les régions de Kaye, Tombouctou et au niveau du district de Bamako. À Kaye, le collectif des associations des écoles privées agréées du Mali dénonce le non-paiement d'une partie des bourses 2021-2022. Leur mouvement de grève se poursuivra jusqu'à la satisfaction de cette revendication, indique le collectif. À Tombouctou, les promoteurs des établissements secondaires exigent le paiement des subventions à travers une grève de 3 jours. Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants de l'Institut universitaire de gestion, IUG, dénoncent le retard de l'inscription des étudiants. C'est la raison pour laquelle ils ont entamé une grève de 3 jours. Les enseignants des facultés de médecine et de la pharmacie ont aussi choisi une grève illimitée. Ils revendiquent notamment le paiement régulier des frais pédagogiques et les impayés des masters des années 2020-2022. D'autres grèves sont prévues toujours au niveau du secteur de l'éducation. La synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 envisage un nouvel arrêt de travail national de 3 jours à partir de demain. Elle souligne toutefois que les négociations sont en cours avec le gouvernement. La section syndicale de SNUNSUP au niveau de l'UG annonce également une nouvelle grève de 5 jours à partir du 22 décembre prochain.
À Bamako, certains parents d'élèves et élèves s'inquiètent de ces nombreuses grèves. Ils demandent aux syndicats des enseignants et aux autorités de trouver un terrain d'entente pour une année scolaire apaisée. Mais d'autres estiment que les enseignants sont dans leurs droits. Ils sont au micro de Sada Maïa et Alassane Diakité.
Valorisation vraiment de leur métier.
Les grèves des années précédentes là, ont eu vraiment des impacts négatifs sur le niveau des élèves.
Concernant les grèves de ces derniers temps, je dirais que ça ne peut que rompre l'élan que le développement est en train de prendre. Et ces grèves également contribuent à faire de telle sorte que le taux de scolarisation baisse.
C'est une situation qui était là il y a longtemps. Et les gens ont laissé ça à cause des crises qu'on a vues tout récemment là. Avec les prises de décision de la CEDEAO sur le Mali, bon, ça a mené tout le monde vraiment à déposer les armes.
Je pense que jusqu'à présent, les autorités et les syndicats doivent s'entendre pour trouver une solution.
Le secteur de la santé est aussi concerné par cette grève. Le collectif des syndicats du CHU du Point G a déclenché ce lundi 12 décembre un nouvel arrêt de travail de 5 jours reconductible. Selon les syndicalistes, cette grève est reconductible si leurs revendications ne sont pas satisfaites. En revanche, la section syndicale de la justice et le syndicat des travailleurs de l'administration publique, SENTAP, a suspendu son mot d'ordre de grève de 72 heures. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre actualité du jour, le Mali et la Banque mondiale ont signé un accord de financement de plus de 180 milliards de francs CFA ce lundi 12 décembre 2022. Cet accord devrait permettre d'accroître l'accès aux services d'assainissement et d'eau à Bamako, la productivité agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux dans les zones arides. Les détails avec Fatmata Kodio.
Ces financements concernent deux projets, à savoir le projet résilience urbaine de la ville de Bamako Pruba pour plus de 160 milliards de francs CFA. Ces fonds permettent de réaménager la décharge de Noumoubougou, un centre moderne d'enfouissement technique d'une capacité de plus de 2 millions de tonnes sur 40 hectares. Deux usines de traitement des boues fécales seront réalisées pour une meilleure gestion du système d'assainissement à Bamako. Ces usines auront une capacité journalière de 600 mètres cubes pour 700 000 habitants. Le second financement est celui du développement agricole des zones arides du Mali, PEDAZAM, pour 20 milliards de francs CFA. Il vise à diminuer l'insécurité alimentaire en faveur des personnes vulnérables. Ces projets touchent principalement les femmes, les jeunes, les personnes déplacées des régions de Kaï, Kouloukoro, Ségou et Mopti.
8 personnes tuées, c'est le bilan de l'attaque du village de Digny, commune de Ségué, cercle de Bankas. L'attaque s'est déroulée hier aux environs de 5 heures. Des habitants de la localité rapportent que l'assaut serait perpétré par des présumés djihadistes. Alertés, les forces armées maliennes FAMA s'y sont mobilisées pour mettre la main sur les malfrats. Des sources locales rapportent que les patrouilles sont en cours et que la situation est calme. À présent, le dossier de la semaine. Le monde a célébré le 10 décembre dernier le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration stipule que tous les êtres naissent libres et égaux. Mais au Mali, l'esclavage par ascendance continue d'exister malgré l'interdiction de la pratique par les lois du pays. C'est dans la région de Kaï que le phénomène prend de l'ampleur malgré sa dénonciation par les organisations de défense des droits de l'homme et les associations anti-esclavagistes. Mamadou Samasekou.
Fils de l'une des victimes de cette pratique, Lassine Konati est le porte-parole de la cellule de Bamako de l'association Gambana, une organisation anti-esclavagiste. Il soutient que l'éveil des consciences ne conçoit plus ce genre de pratique.
Refuser d'être considéré comme esclave, je ne pense pas que cela soit une raison de mépris ou d'expulsion ou encore d'extrême violence. Ce message, on le fait à l'endroit des chefs de village. Ils ont beau gérer des parents ou des grands-parents, qu'ils sachent que les enfants de ceux-ci, qu'ils prétendent d'être des esclaves, ont aujourd'hui pris conscience de la situation. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de se méfier des propos qualifiant l'esclavage comme faisant partie des us et coutumes. Loin s'en faut.
Des traditionalistes estiment qu'il s'agit plutôt d'abandonner les pratiques malsaines. Selon eux, il faut préserver certaines pratiques ancrées dans nos sociétés. Omar Kouaté, président du réseau des communicateurs traditionnels Récotrad de Kaï.
C'est une pratique coutumière vécue des siècles. Donc on ne peut pas du revers de la main parler tout ça. Mais s'il y a des pratiques inhumaines dégradantes, on peut extraire ces pratiques-là et tout de suite revenir sur des bases saines. Alors, parce que notre société, elle est bâtie sur la reconnaissance des valeurs de l'autre aussi. Parce que nous avons été d'abord une nation avant d'être État. Alors, donc, nous devons cohabiter ensemble. Aujourd'hui, l'esclavage par ascendance et le conflit qui est lié à ça a tendance à disparaître.
La Commission nationale des droits de l'homme mène une lutte sans merci contre l'esclavage par ascendance. Pour la CNDH, le phénomène est une réalité et constitue un facteur de violence entre les communautés. Omar Touré, représentant régional de la CNDH, à Kaï.
Nous savons très bien que la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région de Kaï est réelle et se manifeste malheureusement par des violences, des milieux de déplacés internes. Et nous avons cherché à ce qu'il y ait une loi criminalisant la pratique. Et actuellement, pour la relecture du code pénal, je crois que c'est pris en compte.
Le sociologue Fouji Tandjougoura propose aux autorités l'affranchissement symbolique pour arriver à bout du phénomène. Il ajoute que les lois et autres actions judiciaires ne seront pas suffisantes face au phénomène.
Nous disons qu'il faut faire la promotion de l'affranchissement symbolique. On a vu ça dans certains villages à Kaï. Ceux qui sont considérés comme esclaves se réunissent, vont voir ceux qui sont supposés être leurs maîtres pour demander leur affranchissement symbolique. On paie des cadeaux rituels. La communauté maître accepte leur affranchissement et le problème est fini. Souvent, on donne même des enfants en mariage. La deuxième chose, c'est que même si on relit le code, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser en profondeur.
L'esclavage par ascendance est une pratique séculaire dans certaines régions du Mali, reconnaissent des observateurs. Mais ces derniers estiment qu'avec l'évolution du monde, tout doit être mis en œuvre pour arrêter les phénomènes, faute de quoi il peut engendrer des conflits entre communautés.
Sport, football, Coupe du Monde Qatar 2022, les demi-finales débutent tout à l'heure avec l'affiche Argentine-Croatie à 19h. Demain, le Maroc croisera le fer avec la France au championnat titre dans l'autre demi-finale. Après une qualification historique au dernier carré, le représentant africain pourra-t-il réaliser l'exploit d'atteindre une première finale de Coupe du Monde? Le chroniqueur sportif Adama Maïga affirme que le Maroc a ses chances dans cette rencontre, même s'il estime que la France part favori. Il est joint au téléphone par Youssoufa Mahamadou.
Donc, je pense que le Maroc a ses chances dans ce match-là, en demi-finale contre la France. À partir du moment que cette équipe marocaine a été très performante durant cette Coupe du Monde, la preuve, elle n'a encaissé qu'un seul but. Et ce seul but aussi, c'était un but contre son camp. Surtout que l'équipe du Maroc sera galvanisée par le fait qu'elle est la première équipe africaine à pouvoir atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Moi, je pense que cela va quand même donner une certaine notoriété au football africain. Parce que vous l'avez dit, la Coupe du Monde est créée depuis 1930, qu'une équipe africaine n'avait encore eu la chance, sinon n'a pas réalisé la performance d'être en demi-finale. Sur le papier, c'est l'équipe de France qui est donnée favorite. Il va donner 60% à l'équipe de France et 40% à l'équipe du Maroc.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org. C'est donc la fin de ce journal. La mise en onde a été assurée par Salim Djouara. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Depuis longtemps, les femmes entreprennent au Mali. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la mondialisation, beaucoup souhaitent franchir les barrières. Cette expansion a un coût, car les institutions financières ainsi que les programmes d'appui demandent des garanties qui freinent souvent les ambitions. Certaines se tournent vers les tontines pour démarrer leurs activités. Le magazine Toutes les femmes d'aujourd'hui leur est consacré. Mariam Koulibaly.
Madame Djitey a ouvert son jardin d'enfants à Bourem sur fonds propres selon elle. Depuis, c'est le CAP de Bourem qui l'aide à payer les enseignants et à construire quelques classes. Mais elle soutient que les femmes de la localité ne bénéficient pas d'appui de l'État et des ONG comme il le faudrait. Voici son témoignage.
Parce que le montage même des projets est extrêmement cher à Bourem. Les gens qui montent les projets là, ils montent les projets à 25 000, 30 000, 50 000, mais ça ne marche pas. Parce qu'on dit que notre zone est une zone en insécurité. Les femmes n'ont même pas accès au financement.
Je n'ai jamais reçu un appui financier de qui que ce soit. Ces propos sont de Teneba Sissouma. Elle qui gère un salon de coiffure à Yoroso depuis plus de 5 ans ne compte que sur les tontines pour s'en sortir.
Nous n'avons jamais reçu d'aide. Et quand les aides viennent, je n'ai jamais été citée. Je me débrouille ici. On doit pouvoir vivre de notre activité. Aucun projet n'est venu à mon secours. Nous souffrons beaucoup. J'espère que les autorités penseront en nous.
À Saint, Mme Kamate Karia Traoré, qui œuvre dans la transformation agroalimentaire, a eu plus de chance. En plus d'avoir eu un financement, elle a reçu des formations lui permettant de faire plus de profits.
Au début, je travaillais seule. On s'est regroupé entre femmes. Aujourd'hui, c'est une union des femmes du nom de Tchessiri. Un projet nous a soutenus avec des fonds et une formation. Au début, ce n'était pas facile, mais on a appris l'étude du marché.
Abemoko Fili Keita est la promotrice d'une start-up de transformation de céréales oléagineuses. Pour avoir bénéficié de plusieurs prêts, Madame Keita invite les femmes à croire en leur projet et à travailler dur.
J'ai bénéficié de l'appui financier du programme PGRI qui était un crédit de 800 000 et que j'ai pu payer. Et là, on m'a fait une subvention de 700 000 avec l'intérêt de la banque. J'ai été retenue comme bénéficiaire au programme FACEJ, un crédit de 2 millions et une subvention de 2 millions. Les machines de transformation, nous avons pu acheter un extracteur d'huile, une décortiqueuse de sésame, un tricycle, deux séchoirs et beaucoup d'autres ma machine.
Le conseil régional de Sikasso a financé plus de 10 projets de groupement de femmes à Sikasso. C'était dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Pour M. Yegolit Mamadou Tembeli, responsable des services techniques du conseil, pour jouir de ces financements, le projet doit être viable et pérenne.
On accompagne les initiatives de transformation des produits agricoles de la région. Le montant de ces financements, c'est minimum 20 millions. Le conseil régional prend les 80% du financement. Les promoteurs, puisque ce sont des groupements, prennent les 20%. Mobiliser ces financements, il faut que le projet soit économiquement viable. Les promoteurs de projets ont assez de difficultés à proposer des projets vraiment qui puissent être mis en œuvre sans grand problème.
Lors du lancement de ces activités le samedi dernier, les responsables du Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes FAFE ont affirmé avoir soutenu plus de 2000 femmes en 2021. Nos tentatives pour avoir plus de détails sur les actions que mène le FAFE n'ont pas abouti. Pourtant, beaucoup s'interrogent sur l'impact de tous ces programmes et institutions financières sur le financement des projets des femmes.